Ultra Radiophonique vous présente un scénario original de Jean-Pierre Junier. Les miroirs brisés. Mise en scène, production, Jean-Pierre Junier. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée et ne peut être utilisé sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui sont sous cette marque sont la propriété de l'auteur. paraissait beaucoup, et je ne faisais rien. Mais depuis que je te connais, je change. Je ne sors plus, je ne vois plus personne. Il y a juste une chose que je n'arrive pas à trouver une solution. J'ai trouvé quelque chose à faire, du travail. Là, je ne sais pas quoi choisir. Rien ne me plaît. Elle demande, et le travail de ton père. Il lui dit, tu me fatigues. Et puis, le cuir, c'est une odeur qui me donne mal à la tête. Et lui, tu travailleras alors avec mon père. Il lui dit, ça serait peut-être un peu trop. Je lui demande la main de sa fille et une place. Elle lui dit, je suis sûr qu'il s'en serait très heureux. Les hommes aiment bien avoir un fils pour lui succéder. Et lui n'en a pas eu. Tu le remplacerais? Tu oublies, c'est que j'ai un père qui risque d'être jaloux. Elle lui dit, nous les ferons sympathiser. Les jours passent. Germain aimerait que ce flirt s'arrête, mais il ne dit rien. Et puis, il a d'autres ennuis. Un matin, Edmond s'apprête à quitter la maison. Son père le voit et lui demande, où vas-tu?
Je dois y aller. J'en ai besoin,
mon père lui dit.
Tu as raison, mais tu dois être en forme.
Mais tu ferais mieux, c'est de voir Poirier.
Oui, tu ferais mieux de voir Poirier.
Et on lui dit, tu sais bien que ça ne sert à rien. Et puis, ça me fait du bien. Où je vais?
Bien, vas-y.
Et Edmond quitte son père. Il prend la voiture et roule. Il a arrêté sa voiture dans une petite rue populaire de Paris, rue Saint-Jacques, où il y a des petits immeubles, quelques vieilles maisons sans âge. Il sort de voiture et va sonner à la porte de ces affreuses maisons. La porte s'ouvre. C'est une femme maigre, petite, cheveux noirs, en chignon, tête osseuse, l'air revêche. Elle porte une petite robe noire toute simple. Il dit,
je viens la voir, je n'en ai plus.
Elle dit, vous avez de la chance, elle vient tout juste de se réveiller. Venez. Elle le fait rentrer.
Le couloir de la maison est sombre. Les volets n'ont pas été ouverts.
Elle ouvre une porte. Entrez. En attendant, il entre.
Ça ressemble à un salon avec des chaises disparates. Il y a même une chaise de cuisine en formica abîmée et sale. une vieille table où se trouvent des revues genre Voici. J'assois sur une chaise. Je sens me renfermer. La porte qui est en face où il est rentré s'ouvre. Et apparaît une femme grande, grosse, cheveux blonds, tête ronde et la peau très blanche. Elle porte un espèce de déshabillé rose, sale et des pantoufles roses aussi. Il se lève et lui dit « Te voilà déjà de retour ?»« Oui. » Elle lui dit, ça n'a pas fait le fait longtemps cette fois. Oui, et il me le faut. Viens, je vais te détendre. Et il la suit dans une autre pièce. Là, il y a divan en cuir défoncé, une table et une armoire. Sur la table, du matériel, des pommades, des seringues. Elle dit, allonge-toi et descends ton pantalon. C'est ce qu'il fait. Elle se penche sur lui et lui dit, tu vas voir, j'ai les mains expertes et tu vas, ça va te faire du bien mon Mimi. Tu te sens toujours mal? Oui, et j'en ai besoin. C'est ce que je vois, c'est ce que je vois. Cette fois, je vais te faire du bien. Oui, je te le prends. Ferme les yeux et ne pense à rien. Laisse-moi faire. Et elle se penche sur lui. Une demi-heure plus tard, il ouvre les yeux. Elle se redresse. Elle est en sueur. S'essuie le visage et les mains avec son mouchoir. Lui remet en place son pantalon. Et se lève. Et lui demande, ça va mieux? Oui, merci. Tu peux partir? Il lui demande, tu me donnes pas? La prochaine fois, cette fois, tu ne dois pas en avoir besoin. Il faut absolument que je sois en forme. Tu comprends? Oui, la petite. Mais est-ce qu'elle sera, elle, capable de me remplacer? Elle est gentille. Et puis, je peux revenir si j'en ai besoin. Ça m'étonnerait. Tu es comme ça. On n'y peut rien. Tu penses que j'en aurai toujours besoin? Oui. Tu es comme ça. On n'y peut rien. Chacun son fardeau. Allez, va-t'en. J'ai un autre client, un prêtre. Tu vois, malgré qu'il soit prêtre, lui aussi. Et il quitte la pièce. Dans le couloir, il retrouve la vieille qui lui tend la main. Il lui met un billet et quitte la maison. Il se sent mieux. Mais pour combien de temps? Il ne veux pas que Florence le sache. Les jours passent. Un soir, Armand, mère cache, va à une soirée chez son ami le médecin Poirier, qui habite la même rue que lui. Une maison dans un grand parc. Il y va seul. Son fils ne veut pas y aller.
Je ne veux pas être observé comme un cobaye.
Comme tu voudras.
Lorsqu'Armand arrive, il y a déjà beaucoup de monde. Retrouve son ami, le docteur Poirier, au salon, au milieu de ses invités. Le docteur Poirier est un homme grand, mince, très élégant, les cheveux épais, châtains, tête ronde, sympathique.
Merci d'être venu, ton fils n'est pas venu.
Non.
Tu sais qu'il déteste les médecins. Mais moi, je ne suis pas un médecin. Je suis un ami. Je le sais. Mais pour lui, tu es tout de même un médecin.
Il regarde autour de lui et lui dit,
tu en as du monde.
Oui. Ami, mais aussi de mes malades. Que je connaisse. Mais je ne fais pas d'heures supplémentaires. Armand demande.
Et ton projet de clinique?
Poirier lui dit.
Je me détends. Je ne pars pas de travail.
Bon, ben enfin, je peux te dire, c'est que c'est en bonne voie. Ça intéresse quelques vieilles rombières.
Tu parles, j'aurais dit que je m'étais en service, un service de chirurgie esthétique et d'amincissement.
Elles ne savent pas que lorsqu'elles viendront se faire tirer la peau, elles paieront aussi pour le reste.
Armand rit. Une vieille maigre à tête de cheval, robe rouge, fait signe au directeur pour qu'il vienne vers elle. Il dit à Armand.
Tu dois y aller, c'est une de ces toquées.
Tu vois, sa tronche, elle s'imagine qu'on peut y faire quelque chose.
Armand lui dit,
transforme-la plutôt en jument.
Oui, ce serait plus facile,
mais elle s'imagine en Bardo.
Armand lui dit,
mais Bardo,
celle que Dieu créa la femme.
Et il le laisse.
Armand va au buffet prendre une coupe de champagne. Il prend une coupe et tombe sur un homme qu'il semble connaître. L'homme est grand, mince, cheveux blancs, yeux bleus, élégant. Il est plus jeune qu'Armand. Armand le reconnaît.
Bonjour, comment allez-vous?
L'homme dit, oh, pas très bien. J'ai mes fils qui ne font que se chamailler. C'est insupportable. Ils se détestent.
Vous en êtes sûr?
Oui, hélas.
De la jalousie?
Je ne sais plus. Je ne sais comment faire. J'ai bien essayé de séparer, mais rien n'y fait. C'est pire. Ils se recherchent que pour se battre. Ils te rencontrent des frères. Toi, t'as de la chance. Tu n'as qu'un fils.
Oui, mais j'ai mes ennuis moi aussi. Un fils unique crée des ennuis. Je l'ai très mal élevé, trop gâté. Maintenant, j'en paie les conséquences. Comme l'on dit, on est puni par où l'on a péché. Et puis,
moi, je ne sais pas quel péché j'ai fait pour que je sois puni.
Allons savoir. tous péché d'une façon ou une autre. Même le juste, comme dit l'autre, pêche 7 fois dans la journée. Alors nous, qui ne sommes pas des justes, nous lui disons, qu'est-ce que tu en sais? Pour moi, si tu en étais un, on le saurait. Ils sont tellement peu sur cette terre.
Poirier va à eux. Idéalement,
tu peux me rendre un service? Je ne peux pas y aller. Elles vont me suivre. Est-ce que tu peux aller au mon bureau, prendre sur mon bureau une petite boîte rouge? C'est mes pilules pour mes douleurs. Maman me demande, tu es malade, comme tout le monde. Mais j'ai simplement des douleurs au dos. Et il faut que je... des calmants. Tu devrais t'allonger. Ça ne sert à rien. Même allongé, ça me fait mal. Et je peux me mettre n'importe comment, j'ai toujours mal. Je peux te dire une chose, c'est que je suis mieux lorsque je marche. Mais si je reste un moment debout, sans bouger, ça me fait mal. Bien, je vais te chercher tes pilules miracles. Et quitte la soirée, monte à l'étage et connaît la maison de son ami. Au premier, il ouvre une porte et entre dans le bureau éclair. Heureusement, il connaît bien. C'est un bureau meublé Louis XVIII. Va à la table du bureau. Éclaire en plus sa lampe qui est sur le bureau, parce qu'il fait tout de même très sombre. Voit une boîte rouge qui est sur un dossier bleu clair. Prend la boîte et en la prenant, il voit marqué au feutre un nom qui le frappe. Germain de Courcelles. Il est surpris. Met la boîte dans sa poche. Ouvre la pochette. Et là, il lit. Apprend que de Courcelles est soigné par Paris, par Perrier. En partie par lui parce qu'il semblait être bien malade. Lit. Que de Courcelles est mourant presque. Ferme le dossier. Il en sait assez. Se dit que de Poirier est bien inconscient de laisser les dossiers de ses clients comme ça. S'il fait la même chose pour le sien, tout le monde doit savoir ses petits bobos. Heureusement que lui n'a rien de grave. Mais grâce à l'étourderie du médecin, il sait que de Courcelles est très malade. Voilà une bonne nouvelle. Et il sort du bureau. Retourne à la soirée. Donne les pilules à Poirier. Merci. Poirier ouvre la boîte, prend les pilules, une pilule, et la met dans sa bouche. Maman lui dit. De voir un médecin qui se soigne, ça me paraît étrange. Poirier lui dit, le cuisinier mange bien, mais alors pourquoi est-ce que maintenant ne pourrait-il pas se soigner? Maman ne parle pas de ce qu'il a découvert. Il n'en parlera certainement à personne. Parle pas de ce qu'il a découvert à son fils. Tout le monde a ses secrets. Armand, son fils Germain et la pauvre Florence. Oui, la pauvre Florence aussi a ses secrets. Oui, elle a dit ses secrets, mais elle est incapable de dire lesquels.
Armand, en pensant à tout ça, se dit que tout ce petit monde... doit être une et unie par leurs secrets. Un soir, pendant le dîner, qui prend dans la salle à manger avec son fils, Armand dit à son fils:
voilà déjà quelque temps que tu fréquentes cette jeune fille. Si tu la fréquentes pour le bon motif, en tout cas, je le souhaite, il faudrait c'est que tu me la présentes.
Edmond devient tout rouge. Il a peur que le père de la jeune fille ne plaise pas à son père ou qu'il dise des choses sur lui à Florence qui risque de le gêner. Il lui dit: oui, bien sûr.
Alors, quand?
Je ne sais pas.
Le plus vite possible, mon garçon. Nous ne dirons rien de la rue Saint-Jacques et du reste. Je te le promets.
Edmond est tout rouge, le père lui dit.
Elle aussi doit avoir ses secrets.
Il lui demande: tu sais quelque chose?
Il lui dit: non, rien du tout. Mais nous avons tous des secrets. Sinon, la vie serait trop simple.
Tu as raison, père. Elle doit avoir ses secrets. Mais elle devrait peut-être savoir.
Quoi?
Eh bien,
elle le saura bien un jour. Alors, sois gentil. Tu me présentes cette petite fille.
Et moi, j'ai l'impression qu'on veut l'amener au sacrifice, comme l'agneau. Il se dit: pauvre Florence. Mais dès que nous serons mariés, je quitterai tout ça. Nous irons vivre dans un endroit où personne ne nous connaîtra.
Se promène avec Florence sur les quais de Seine. C'est un jour d'hiver, ensoleillé, sec, il fait bon marché. Paris est lumineux et heureux. Les arbres sont nus, mais n'ont pas l'air triste, leur côté sombre. Il donne plutôt du relief au paysage. La Seine a plein de reflets lumineux. Edmond lui dit:
mon père aimerait c'est te connaître.
Et sursaute, ça lui fait peur. Il dit:
ce n'est rien. Et puis il est très bon, vous savez.
Elle lui dit:
je ne saurais quoi lui dire.
Il lui dit:
vous n'allez pas avoir peur, je serai près de vous. Et puis, il veut simplement savoir à quoi vous ressemblez. Rien de plus. Il est très heureux que j'ai enfin trouvé une jeune fille que je puisse aimer. Et puis, il ne vous posera pas de questions embarrassantes. Il sait déjà qui tu es.
Elle devient toute rouge et il demande:
comment le sait-il?
Il lui dit:
Il le sait. C'est normal qu'il se soit renseigné. Il sait, c'est que tu es une très bonne fille. Elle lui demande. Il sait pour mon accident. Il dit, oui, bien sûr. C'est normal. C'est une bonne chose qu'il le sache. Ça l'évitera de poser trop de questions. Alors, veux-tu aller le voir? Puisqu'il le faut. Quand tu veux, il lui dit, le plus vite possible, pour être débarrassé. Il va falloir en parler à ton père pour qu'il vienne, lui aussi. Il lui dit, viens, j'ai peur. En rentrant tout à l'heure, tu lui parleras. Bien, je le ferai. C'est à 19h, il ramène Florence chez son père, qui retrouve au salon.
Vous avez fait une bonne promenade?
Oui, une très bonne. Nous sommes allés sur les quais.
Très bien.
Monsieur, Florence devient toute rouge.
Oui.
Voilà, mon père aimerait vous connaître, vous et Florence, pour le père lui demande.
Je veux bien faire la connaissance de votre père, mais vous ne m'avez pas demandé la main de ma fille, alors.
Edmond devient tout rouge, et Penaud dit, j'aurais dû vous le demander.
Le père, il lui dit, je plaisanterai, je crois le savoir. Que vous et ma fille, vous vous aimez beaucoup. Ça ne vaut pas la peine que vous me le disiez officiellement. Je le sais déjà. Bien sûr, j'accepte que vous fréquentiez ma fille et que vous deveniez son mari. Je ne dis pas non. Qu'en penses-tu, ma petite?
Florence se plaint à son père et lui dit,
oh papa!
Il l'embrasse. Edmond soulagé, le père dit,
venez m'embrasser, vous aussi, puisque vous faites partie de la famille.
Il va embrasser Germain. Puis le père dit,
nous allons boire du champagne. Venez vous asseoir.
Ils vont s'asseoir. Le père appuie sur la sonnette pour faire venir le domestique et demande.
Et il faut voir votre père quand?
Edmond lui dit.
Donnez votre jour.
Le père réfléchit, dit.
Disons jeudi à 20h30.
Florence n'a plus peur. Parce qu'elle a vu que ça s'était bien passé avec son père. On l'a frappé à la porte.
Entrez.
C'est le domestique. Le père dit,
apportez-nous du champagne, mon ami.
Bien, monsieur. Et se retire. Le père demande,
et pour le mariage?
Florence lui dit, t'es bien pressé. Le père lui dit,
le temps passe vite. Tu sais, ma chérie. Entrez,
c'est le domestique avec le champagne et il fait le service.
domestiques se retirent. Ils boivent en silence.
Le père dit, à vos amours.
Le soir, lorsque Edmond retrouve son père et lui dit, père de Florence viendra te voir jeudi à 20h30.
Il dit, ils sont bien pressés, mais ils ont tout à fait raison, ça me va.
Edmond lui dit, tu ne les ennuieras pas trop, ils sont très simples.
Père lui dit, la simplicité cache toujours quelque chose de moins simple. Rien n'est simple dans la vie.
Florence est tout excitée. Elle ne sait pas quoi mettre pour voir son futur beau-père.
Le père l'entend dans la chambre. Allez venir.
Il ouvrait les portes de son placard.
De son armoire.
Soupire. Ferme la porte.
Il frappe à la porte de la chambre de sa fille.
Entrez.
Elle lui dit, tu ne vas pas au bal des débutantes, mais mets-toi un tailleur beige en laine, ça ira très bien.
Il lui dit, mais je ne connais même pas ses goûts.
Mais c'est pas avec lui que tu vas te marier. Tu vas te rendre malade. On arrête tout ça.
Il lui dit, ce serait peut-être la meilleure solution.
Tu es folle et ton promis, tu vas le rendre malheureux. Elle soupire,
s'assoit sur le rebord du lit. Je ne sais plus où j'en suis. Déjà, je ne le savais pas, mais là,
il l'embrasse sur le front et lui dit,
tu te poses trop de questions, fais ce que tu as envie de faire et voilà.
Elle lui dit, tu as sans doute raison. Alors, le tailleur beige en laine?
Oui.
Et il sort de la chambre. Lui aussi est inquiet, mais se dit qu'il faut presser le jeu. Parce que jusqu'ici, personne ne s'est rendu compte de rien. Pourtant, c'était plus dangereux et compliqué avant. Là, ce n'est qu'un mariage et tout est en ordre. Et puis, si elle se marie, cela risquera encore plus de troubler les pistes. Elle va changer de nom et d'adresse. Et puis, il lui sera plus facile de s'occuper de ses affaires parce qu'il a eu et il a des ennuis lui aussi. Une heure plus tard, ils sont dans la voiture. Le chauffeur les conduit chez les Marcaches. Il se dit que ce nom lui rappelle quelque chose. Il est vraiment bizarre ce nom. Mais quoi? Il a tellement connu de monde. Enfin, la voiture s'arrête devant la propriété. Le chauffeur sort de voiture pour appuyer à l'interphone du portail. Il entre dans la voiture
et la met en route.
Florence est très émue. Son père le voit et lui dit :
ce n'est rien.
La voiture s'arrête devant la maison. Le chauffeur va leur ouvrir la portière. Ils sortent de voiture. La porte de la maison est ouverte. Un domestique grand mestre, maigre, cheveux châtains, est à l'entrée. Il leur dit :
ces messieurs vous attendent au salon. Veuillez bien me suivre.
Et les fait monter à l'étage. Le domestique frappe à une porte et les fait entrer. Le père et le fils debout au milieu de la pièce. En les voyant arriver, ils accourent à eux. Le père dit :
soyez les bienvenus.
Edmond, gêné, dit à son père : père, je vous présente monsieur de Courcelles et sa fille Florence. Le père dit :
je suis très heureux de faire votre connaissance. Venez vous asseoir.
Ils vont s'asseoir dans des fauteuils autour d'une table basse.
Le père demande : vous désirez boire quelque chose ?
Germain lui dit :
oui, merci. Le père lui dit : il faut bien boire à la santé de nos enfants.
Il appuie sur la sonnette pour faire venir le domestique.
Alors, mon fils veut se marier avec cette charmante jeune fille.
Germain lui dit :
c'est ce qu'il m'a dit. C'est bien.
La frappe à la porte. Entrez, c'est la domestique.
Le père demande : qu'est-ce que vous voulez boire ?
Germain lui dit :
si vous avez du bourbon. Et mademoiselle ?
Elle lui dit :
un vitel.
Il lui dit : vous êtes bien sage.
Elle rougit :
et toi, mon fils, qu'est-ce que tu veux ?
Du cognac.
Alors, un bourbon, un vitel et un cognac.
Bien, monsieur. Et il se retire.
Et que fait votre fille ?
Germain lui répond :
elle a pris des cours de mode, mais elle a arrêté pour des raisons de santé. Oh, j'espère que ce n'est pas bien grave. Non, ça va beaucoup mieux. J'en suis très heureux. Entrez.
C'est la domestique qui vient avec les boissons
et fait le service. Merci. Merci.
Merci. Merci.
Et elle s'en retourne.
Et l'on parle de choses et d'autres. La soirée se continue, un peu gênée de part et d'autre. L'on parle de ce que l'on aime et des difficultés de la vie. Avant qu'il ne parte, Armand demande :
et pour le mariage, quelle date ?
Germain lui dit :
je ne sais pas, peut-être. Dans 6 mois, il faut tout arranger. Justement, dit Armand, devrions nous voir pour discuter de choses plus terre à terre.
Bien.
Alors,
venez dans 15 jours me voir à mon bureau, rue Saint-Germain, numéro 25, à 15h. Cela vous va-t-il?
Et ils se sont assis. Ils se sont quittés satisfaits.
Edmond les a raccompagnés jusqu'à la voiture. Il leur dit, ça s'est bien passé, n'est-ce pas? Germain dit,
tout à fait bien.
Laurent se dit, ton père est charmant. Armand l'embrasse sur la joue, lui dit, à bientôt.
Le père, une fois dans la voiture, dit à sa fille,
son père, absolument, à ce que les choses aillent vite. Il m'a convoqué déjà pour la date où je croirais sous l'ancien régime. Mais ne te fais pas de soucis, tu es ma seule héritière.
Je m'en fais pas pour ça. Ce qui m'inquiète, c'est moi. Je n'ai rien à leur dire sur mon passé.
Il lui dit, c'est mieux comme ça. Tu n'as rien à leur cacher. On a toujours quelque chose à cacher. Toi, ta vie est vierge de tout passé. C'est bien d'avoir une vie vierge de tout passé.
Elle lui dit, c'est pas si reposant que ça. Ça me rend malade.
Les jours passent. Les choses ont été plus ou moins prévu. Bien sûr, le père de la mariée va être obligé de préparer une soirée pour annoncer les fiançailles de sa fille. Et avant, il faut qu'il voie le père du marié. Et puis zut, ça ne doit pas être le mariage du siècle. Le père doit voir le père du marié, il y va à 15h. Il va à son siège, l'immeuble est cossu. Le hall d'entrée est en marbre, en demi-cercle, avec banque, escalier de marbre, avec belles rampes en fer forgé, des vitrines pour la présentation des collections. Ça fait très chic. Des hôtesses en tailleur marine vont et viennent. Il va à l'accueil. L'hôtesse lui demande,
oui monsieur, vous désirez?
Bonjour mademoiselle, j'ai rendez-vous avec monsieur Mercas.
Vous êtes monsieur de Courcelles.
Je vais voir monsieur.
Elle regarde sur son ordinateur.
Oui monsieur.
Prend son téléphone.
Allô? Monsieur, c'est l'accueil. Vous avez monsieur de Courcelles qui vient d'arriver. Bien, monsieur.
Elle lui dit, nous allons vous mener au bureau de monsieur de Mercas. Elle fait signe à une hôtesse grande blonde dans les 25 ans.
Veuillez mener, s'il vous plaît, ce monsieur chez le président. Il l'attend.
La jeune fille dit, bien, veuillez monsieur, monsieur. Elle le mène à l'ascenseur.
arrivés au dernier étage, ils sont sortis de l'ascenseur et lui fait suivre un long couloir. Frappe à une porte. La porte est capitonnée.
Entrez.
Elle fait entrer Monsieur de Courcelles. Armand se lève.
Nous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Les miroirs brisés. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.